Le Club Notarial Immobilier, jeudi 30 novembre 2023.
Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour le Club Notarial Immobilier. Comme tous les trimestres, les notaires font le point sur ce qui se passe. Les notaires de l'Île-de-France à Paris, Grande Couronne, Petite Couronne. Et on a une invitée exceptionnelle sur ce plateau, c'est Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France. Et la Banque de France, il faut bien le dire, qui est un petit peu sous le feu des projecteurs, voire de certaines critiques, qui accusaient tous les mois, en tout cas, de bloquer les banques ou d'avoir des contraintes ou des niveaux trop contraignants qui bloqueraient un petit peu la machine à crédit. Alors, vous avez les réponses et surtout, vous avez peut-être, on va un peu dézoomer et voir ce qui se passe exactement sur les taux de crédit. Alors, les taux de crédit, je vais vous laisser la parole dans un instant. C'est vrai qu'on a connu une hausse sans précédent. Est-ce qu'on peut revenir sur cette hausse, le pourquoi du comment, et finalement expliquer au public comment ça s'est passé sur ces derniers 18 mois?
Oui, effectivement, on a connu une hausse très impressionnante des crédits immobiliers. On était aux alentours de un peu plus de 1% en moyenne en janvier 2021. Et on voit qu'aujourd'hui, la moyenne est plutôt au-dessus de 4%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2021, il y a deux chocs qui se superposent. D'abord, les goulots de production suite à la fin du Covid. Et puis, derrière, le choc externe de la guerre en Ukraine qui contribue, donc ces deux phénomènes contribuent à faire flamber les prix de l'énergie et des matières premières. Ces prix se répercutent ensuite dans les coûts de production des entreprises.
Oui.
Et on l'a vu évidemment aussi, par exemple, dans les produits alimentaires. Et puis, le rattrapage logique et progressif des salaires, puis devant cette baisse de pouvoir d'achat des salariés, fait que vous avez là aussi une hausse de l'inflation qui s'étend aux services.
Donc tous les prix montent.
Tous les prix montent.
L'inflation est déclenchée. Une spirale infernale, en tout cas, qu'il faut vite contrer, parce que comme on dit, c'est difficile de remettre le dentifrice dans le tube. Cette fameuse spirale prix-salaire. Et c'est là que la Banque Centrale Européenne intervient.
Absolument. C'est là que la Banque Centrale intervient. Et pourquoi elle intervient? Parce qu'elle a un mandat unique qui est la stabilité des prix avec un objectif de 2% à moyen terme. Et que donc, elle utilise son outil et son arme la plus efficace contre l'inflation, c'est l'arme des taux. Parce qu'en rendant plus coûteux les nouveaux crédits, elle va forcément restreindre cette demande de crédit et donc restreindre ce à quoi les crédits sont destinés, c'est-à-dire à la consommation des entreprises, l'investissement des entreprises et des ménages.
Entreprises et des ménages, c'est-à-dire que le coût de l'argent est plus cher pour tout le monde, et ça on l'a bien vu. Le souci c'est que c'est vrai que ça exclut un grand nombre de gens de l'accès finalement à ce crédit, parce qu'en même temps on a des règles assez strictes sur les banques.
Alors, ça exclut forcément, ça rend en tous les cas beaucoup plus coûteux un projet d'investissement immobilier, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une résidence principale comme d'un investissement locatif. On a nécessairement des gens qui, à 1%, pouvaient s'endetter pour leur projet immobilier et qui ne le peuvent plus à partir du moment où les taux sont plus importants. Mais la baisse de la production que vous évoquiez au début et qui est effectivement significative, surtout si on compare au record qu'on avait atteint en 2021 et 2022, parce que c'était quand même des années records, il faut le rappeler. Donc cette baisse de production significative, elle n'est pas due exclusivement à des gens à qui on refuserait des prêts. Elle est d'abord et avant tout liée à une baisse de la demande. Et c'est-à-dire que c'est pas une question de solvabilité de l'emprunteur, c'est juste que votre projet immobilier a pas forcément de sens, ou plus exactement, vous pouvez avoir envie d'attendre de voir si les prix vont pas encore un peu baisser ou vraiment baisser pour compenser ce que vous avez perdu compte tenu de l'élévation du taux du crédit.
Oui, on dit souvent qu'on a perdu environ une pièce en un an, puisque ce à quoi on pouvait prétendre, si on a des salaires moyens, deux salaires dans un ménage, à peu près à 2 000-2 500 euros, on pouvait s'endetter à hauteur de 330 000 euros. Aujourd'hui, avec des taux à 1, avec des taux à 4, c'est 280 000. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée différence, donc une pièce en moins quand on fait son projet.
Alors, c'est vrai, ce calcul méritera d'être corrigé un tout petit peu, enfin, ce sera intéressant de voir l'évolution, parce que quand on fait ce calcul-là, on part en général à revenu constant. Or, même si, là, je vais parler évidemment en termes global, les revenus, ils ont commencé à augmenter et ils sont en train d'augmenter, puisqu'il y a eu une revalorisation globale du revenu de base des ménages, et avec une inflation qui recule et qui recule fortement, et ça c'est aussi la preuve que ce que font les banques centrales, ça marche. Juste un chiffre, en octobre 2022, l'inflation en zone euro a atteint son pic à 10,6%. Le chiffre de septembre dernier, il est à 2,9%. Donc on voit que cette hausse des prix ralentit extrêmement fortement, avec des salaires qui ont augmenté. Ça veut dire aussi que là, on va avoir des salaires réels positifs, et donc, pour les ménages, une partie de leur pouvoir d'achat va augmenter. Enfin, leur pouvoir d'achat va augmenter. Et si on couple ça à une stabilisation, voire à un recul, et les chiffres de ce matin montrent que quand même les prix d'immobilier commencent à reculer de façon un peu significative, on devrait retrouver de l'appétit de la part de certains ménages qui peut-être étaient restés en position très attentiste.
Alors néanmoins, une question subsiste, Marie-Laure Barry-Terrington, c'est de savoir si on n'a pas... est-ce que le malade n'est pas guéri, mais il est mort-vivant, en fait? C'est-à-dire que là, on a quand même des craintes de récession. Est-ce que le remède n'a pas été un petit peu trop drastique? Certes, l'inflation a été battue en brèche et elle recule, mais est-ce qu'on ne va pas tomber en récession? Est-ce que le choc pour l'économie n'est pas trop fort?
Alors, ça n'est pas du tout ce que l'on anticipe dans nos projections. On a même été surpris cette année par la résilience de la croissance de l'économie française. En tout début d'année, disons en décembre l'année dernière, les projections de la Banque de France tablaient sur une croissance tout juste positive en 2023. On va finir l'année entre 0,8 et 0,9%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et nous prévoyons pour 2024 le même ordre de grandeur de croissance, avec une reprise un peu plus soutenue en 2025. Donc, selon toute probabilité, et évidemment en l'absence de choc exogène, on aura gagné cette bataille contre l'inflation sans récession.
D'accord. Une critique qui est souvent adressée, ces fameuses normes HCSF, pour le crédit immobilier, qu'on aimerait bien voir peut-être desserrer, en tout cas certains, pour faire passer davantage de dossiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'elles sont bien calibrées? Est-ce qu'elles pourraient être assouplies?
Alors, ce que je réponds à ça, d'abord que dans ce problème global de l'immobilier et du logement, il y a un halo quelquefois qui nous semble, en tous les cas quelquefois peut-être un peu excessif sur le crédit, et que ça peut masquer d'autres problèmes, d'autres choses qui font que effectivement ce secteur ralentit fortement. Il y a l'offre de foncier, il y a le coût des matériaux de construction dans le secteur du logement neuf, les avantages fiscaux qui vont et qui viennent, il y a des normes environnementales qui se sont durcies. Oui. Tout ça explique aussi beaucoup de chutes ou de construction de logements de ralentissement de ce marché. Et les normes HCSF, c'est un candidat un peu facile et assez récurrent d'ailleurs à la critique. Mais voilà ce que je peux en dire. Alors d'abord, on associe les normes HCSF à la Banque de France. C'est quand même un organisme qui est né de la loi bancaire de 2013.
De 2013, oui.
2013. Alors c'est vrai que le gouverneur de la Banque de France en est rapporteur, et à ce titre-là, c'est la Banque de France qui vient avec des propositions sur l'élaboration des normes. Et ces dernières années, il a quand même, le HCSF a parfaitement rempli son rôle de prévention du risque de surendettement en luttant contre ce qu'on avait vu, qui était une dérive quand même continue. Et on a vraiment des chiffres qui le montrent, à la fois du taux d'effort et de l'augmentation de la maturité de prêt. À tel point qu'on avait été rappelé à l'ordre par le FMI et par le Conseil européen de stabilité financière. La France se démarquait de ses voisins par ces dérives-là, et par ce qui conduisait d'ailleurs à un taux d'endettement, et c'est encore vrai aujourd'hui, oui, des ménages français supérieur aux voisins européens. Alors à ça, on nous dit souvent, oui, mais comme c'est un endettement à taux fixe sur longue durée, ça n'est pas risqué. Mais c'est risqué pour qui ? C'est risqué pour les banques. C'est elles qui subissent ou qui doivent porter le risque de taux d'intérêt et le risque de défaut, parce qu'on sait quand même qu'un allongement, une augmentation du taux d'effort, la corrélation, c'est une augmentation du risque du taux d'endettement. Et c'est parce que ces deux choses sont contenues en France qu'on a un volume, un marché du crédit immobilier extrêmement sain, avec, c'est vrai, un taux de sinistralité très bas. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de desserrer cet encadrement. Et puis... on regarde la France et c'est vrai qu'on regarde
donc,
aussi.
Donc 35% des revenus nets de l'emprunteur, oui. Taux d'endettement maximum, durée de remboursement maximum 25 ans. Certains pays sont passés à 30 voire à 40 ans. Là, vous ne dérogez pas. Enfin, en tout cas, ça ne changera pas. Alors, on précise effectivement, comparaison n'est pas raison, mais comme on dit, quand je me regarde, je me désole, et quand on se compare, on se console, notamment avec nos voisins européens, les chiffres sont quand même assez éclairants.
Les chiffres sont éclairants sur la production, et juste pour compléter ce que vous dites sur les normes, vous avez raison, 35% de taux d'effort, 25 ans d'endettement maximum porté à 27 pour du neuf, mais 20% laissés aux marges sur leur volume de crédit, 20% laissés aux banques de marge flexibilité, ce qui leur permet, et c'est leur métier, d'apprécier tel ou tel risque et de faire et d'accorder un prêt à des ménages pour lesquels elles vont pousser un peu la maturité, augmenter un peu le taux d'effort en ayant étudié leur risque de crédit. Or, ces marges aujourd'hui ne sont pas saturées, loin de là, puisque on a une moyenne de l'ordre de un peu plus de 14% d'utilisation, et c'est ce que met en avant la Banque de France en premier,
d'accord,
lorsqu'on
c'est
lui demande
d'utiliser
d'assurer
d'abord
la marge.
Vos marges de manœuvre.
Saturer vos marges, et là on verra s'il y a une vraie.
Pourquoi les banques ne le font pas aujourd'hui ? Parce qu'elles ne veulent pas faire passer des dossiers peut-être plus fragiles ?
Et voilà, il faut leur poser la question. Elles nous disent, et on a tout à fait lieu de croire, qu'il y a quand même une vraie atonie de la demande, avec des ménages très attentistes, et que donc elles n'ont pas l'occasion, notamment dans le locatif, d'accorder des prêts parce que la demande n'est pas là.
Oui, en tout cas, on a vu que la Banque de France, à travers le taux d'usure peut aussi adapter, puisque ça s'est débloqué finalement à la fin de l'année dernière et qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là. Dernière question, alors ça serait concernant les perspectives pour 2024, voire 2025. Qu'est-ce que vous projetez là ? Quels sont les scénarios qu'on observe ou qu'on a à la Banque de France ?
Alors, même si nos derniers chiffres de production montrent une production au plus bas, on avait espéré une stabilisation autour de 12 milliards par mois au début de l'année. On avait eu ça pendant le premier trimestre. On a vu un recul cet été. On est un peu en dessous de 10 milliards en septembre. Mais il y a quand même plusieurs signaux qui sont un peu positifs. D'abord, on a la BCE qui annonce elle-même, encore une fois, toute chose égale par ailleurs et en l'absence de résurgence forte de l'inflation, elle devrait ne plus monter ses taux. On peut même dire que le prochain mouvement sera à la baisse. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas s'y attendre de façon très rapide. Les marchés l'anticipent à partir de la deuxième partie 2024.
Oui, plutôt troisième trimestre 2024.
Voilà. Mais donc, ça veut dire que pour les banques, il y a quand même une visibilité assez forte du coût de la ressource, d'autant plus forte que le taux du livret A, qui compte de façon importante aussi comme coût de ressource des banques, c'est elles qui rémunèrent nos livrets A. Ce taux a été fixé et a été fixé, proposé par le gouverneur et accepté par le ministre, resté fixé à 3% jusqu'à début 2025. Ça veut dire un coût de la ressource stable pour les banques. Je vous disais tout à l'heure des salaires réels qui augmentent et un prix de l'immobilier qui a baissé. Tout ça devrait contribuer à stabiliser, voire à relancer un petit peu le marché du crédit.
Et ben voilà le scénario Banque de France pour 2024 et un petit peu plus loin. Merci à vous, Marie-Laure Barruet-Harrington. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France. À très bientôt sur Radio Immo.
À bientôt, merci.
Le Club Notarial Immobilier, jeudi 30 novembre 2023.